Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovin, Paloma Soria Brown et Iseut Sicard. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la technique, Inès De Bruyne.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le dernier jour de notre série consacrée aux batailles de la culture à l'heure du coronavirus. Cette semaine, nous avons cherché comment relancer la création française à la télévision et au cinéma et retracer l'histoire du régime des intermittents. À présent, ce sont les pratiques culturelles bousculées par le confinement qui vont nous intéresser. Opéra en ligne, concerts à distance, musées virtuels, jamais l'offre numérique n'a été aussi riche que pendant ces 2 mois. Et pourtant, le secteur culturel est aujourd'hui au bord du gouffre et de nouveaux modèles économiques doivent être trouvés. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des nouvelles pratiques culturelles, nous recevons aujourd'hui Philippe Bailly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de NPA Conseil, une société spécialisée dans l'économie des médias et du numérique. Nous serons rejoints dans un instant par Éric Neveu au téléphone, sociologue et professeur émérite de sciences politiques.
Tu veux pas arrêter de lire et un peu jouer ?
Papa, regarde, il nous reste plus de 150 pages.
Tant que tu n'as pas arrêté de lire aujourd'hui, tu veux pas que je te passe mon téléphone pour jouer à un jeu ?
Bon, merci, papa.
Tiens, j'ai une idée. Ça te ferait pas plaisir d'aller au cinéma ?
Une autre fois, papa.
Tu sais, maintenant, tu es une grande personne. Il serait temps que tu t'intéresses à autre chose qu'à la lecture.
Il serait temps que tu t'intéresses à autre chose qu'à la lecture. L'acteur et réalisateur Emmanuel Mouret dans Caprice, une comédie sortie en 2015, une époque où l'on pouvait encore lire des livres en papier et aller voir des films au cinéma. Le confinement a empêché cela et ce faisant, il a accéléré la consommation culturelle sur Internet, Philippe Bailly.
Le confinement a accéléré toutes les pratiques digitales. À commencer par la vidéo en ligne, l'usage des applis de communication, etc. Mais évidemment aussi, de manière très très forte, très marquée, toutes les pratiques culturelles, alors celles qui sont destinées à s'informer, on n'a jamais vu autant de téléspectateurs regarder les JT, écouter les journaux à la radio, ou aussi lire la presse, et particulièrement la presse en ligne, compte tenu de la période. Et on n'a jamais eu aussi autant besoin, par ailleurs, de se distraire, de passer le temps, puisque de toute façon, on était cantonné à la maison. Et ça s'est traduit par des audiences records en termes de télévision, en termes de vidéos à la demande, enfin, toute autre pratique culturelle, mais la culture n'en était pas absente, puisque ce qu'on a vu aussi, c'est sur les réseaux sociaux, à la fois les compagnies de théâtre, les groupes de musique, les galeries, d'autres encore, après une toute petite période de flottement post 16 mars, le temps que tout le monde se réorganise, ils ont recommencé à animer leurs comptes sur les réseaux sociaux et pour le plus grand plaisir de leurs abonnés, puisqu'on a vu la fréquentation de ces comptes rebondir tout court, et que cette période, à défaut d'avoir été une période où dans laquelle on pouvait monétiser la culture, ça a certainement, en tout cas, été une période de renforcement du lien entre les acteurs de la culture et le public.
Alors la question qui se pose maintenant, Philippe Bailly, c'est quels sont ces nouveaux publics convertis aux biens culturels sur Internet, ces nouveaux publics qui sont donc plus nombreux selon l'enquête Adopi qui a été menée en avril, qui a été réalisée en avril, ce serait notamment les plus de 40 ans ?
Ça a joué vraiment à toutes les générations. Avec, je dirais, phénomène classique quand on parle de culture, c'est qu'évidemment ce qui est plus exigeant en termes d'approche est plutôt pris en main par ceux qui ont un bagage à la fois culturel, sociologique, éducatif plus important. Mais donc on a vu une poussée très forte de la télévision chez les plus jeunes, chez les 15-24, les 15-34, ceux qui s'en étaient un petit peu écartés. Dans le même temps, leurs parents, leurs aînés en tout cas, ont découvert ou redécouvert la vidéo à la demande par abonnement, la SVOD, Netflix, Amazon et autres. Et puis, quand on parle d'Internet et par exemple des réseaux sociaux, de Facebook en particulier, on a vraiment vu des internautes de tous les âges venir écouter Jean-Louis Aubert ou M en concert, aller sur les comptes de la Galerie Perrotin, etc.
On va entrer un peu dans le détail de la consommation culturelle de ces dernières semaines. Parmi les grands gagnants du confinement, vous avez cité les plateformes de streaming, Philippe Bailly. Netflix a gagné près de 16 millions de nouveaux abonnés durant le premier semestre 2020. C'est absolument considérable.
Effectivement, Netflix a gagné 16 millions d'abonnés dans le monde. Dans le même temps, on estime, par rapport à la fin janvier, qu'il en a gagné plus de 800 000 en France, qu'il est passé de 6,7 millions à 7,5 millions d'abonnés. C'est absolument colossal, et c'est aussi la matérialisation, le symbole d'un moment dans lequel les Français et au-delà ont eu du temps, puisqu'ils étaient tenus de rester à la maison. Et la force de ces plateformes de streaming, c'est précisément d'avoir des catalogues gigantesques en dizaines de milliers d'heures. Donc il y a eu une espèce d'orgie de contenu audiovisuel qui a conduit à ces très hauts niveaux d'utilisation et aussi, donc par là même, à de nouveaux abonnements.
Plus de temps en effet, et en même temps plus de concurrents aussi, puisque Disney+ a débarqué en France en plein confinement le 7 avril. Alors pour rappel, Disney c'est 40% du cinéma américain, avec Netflix, Disney+, Amazon Prime, OCS. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation du marché, Philippe Bailly?
Alors, s'agissant de Disney+, effectivement, l'accueil a été extrêmement chaleureux, puisque 8 jours après, c'est-à-dire la période dans laquelle on faisait, nous, une étude auprès des internautes, il y avait 7% des Français qui disaient être déjà utilisateurs de Disney+, donc c'est considérable, et que au niveau mondial, Disney a annoncé avoir franchi la barre des 50 millions. Donc 50 millions d'abonnés en 4 mois, là où il avait fallu 7 ans à Netflix pour arriver au même niveau, dans un contexte, il est vrai, un peu différent. Alors, la multiplication des plateformes, elle s'accompagne d'une démultiplication des volumes de programmes qui sont produits. L'an dernier, aux États-Unis, il s'est produit plus de 530 séries au cours de l'année. Et si vous-même ou moi avions voulu toutes les regarder, il nous aurait fallu à chacun plus de 6 mois de notre année, 24 heures sur 24, sans dormir, sans manger et sans rien faire d'autre. Donc, on voit bien que l'idée n'est pas de tout regarder, mais c'est d'avoir beaucoup de choix, d'une part. Et puis, là, dans la période qui s'achève, avoir eu beaucoup d'opportunités, tant pour ça, jusqu'à s'en faire une sorte d'orgie audiovisuelle. Dans les mois à venir, les choses vont un petit peu changer, parce que il y a eu beaucoup de tournages qui ont été suspendus, que ce soit des séries, que ce soit des films. C'est-à-dire que la fin d'année va être plus compliquée pour les chaînes de télévision classiques, d'ailleurs, comme pour les plateformes de SVOD, parce qu'il y aura moins de nouveautés à montrer. Et donc, chacun va devoir un peu gérer ses stocks.
Ça ne s'est pas encore fait sentir, l'arrêt des tournages sur la diversité de l'offre, Philippe Bailly.
Si, enfin, ça s'est fait sentir déjà. Alors, très nettement, dans tout ce qui est programme de flux, les jeux, les magazines, etc., dans lesquels certains ont été arrêtés pendant un moment avant de reprendre dans des versions confinées. Mais au-delà, les chaînes, on l'a vu, ont commencé à mettre à l'antenne de manière plus parcimonieuse les nouveaux épisodes de séries qu'elles diffusaient, plutôt un par semaine plutôt que 2 épisodes inédits. Et puis au-delà, quand vous regardez ce qui a été un des formidables coups de France Télévisions, la case de cinéma tous les après-midi avec des films de patrimoine, enfin des grands films familiaux faisant partir de l'histoire du cinéma, C'était dans la mission du service public, de, au moment où toute la famille était à la maison, précisément de proposer à toute la famille des films qui pouvaient les rassembler. Ça permettait de pallier au fait que les magazines d'après-midi étaient provisoirement interrompus. Et puis surtout, si France Télévisions avait voulu mettre à l'antenne du programme frais pendant toute cette période, au même rythme que d'habitude, il n'aurait simplement pas pu.
C'est aussi une stratégie de Netflix qui a proposé pendant ce confinement des films de patrimoine, notamment de la nouvelle vague. Et est-ce que les plateformes de streaming et les chaînes de télévision classiques ne sont pas en train de se retrouver sur le même créneau, là où elles proposaient auparavant une offre différente ?
Alors, sans rentrer en essayant de n'être pas trop caricatural, traditionnellement, le succès des plateformes de SVOD s'est construit ces dernières années sur un public jeune de 15-35 ans, là où la télévision attire plutôt des 50 ans et plus. Encore une fois, à grosse maille, mais le paysage est un peu réparti comme ça. Là où aujourd'hui Netflix, Amazon, les autres veulent continuer à croître, attirer de nouveaux téléspectateurs, de nouveaux abonnés, ça suppose pour eux d'aller vers des gens un petit peu plus, un public un peu plus âgé, d'où aujourd'hui une adaptation aussi de leur programmation pour proposer à ces 50 ans et plus des films, Truffaut en est un exemple formidable, qui leur plaisent, qui sont des références pour eux.
Vous l'avez dit, Philippe Bailly, les chaînes de télévision ont également vu leur audience augmenter pendant le confinement. Est-ce que c'est un succès qui est lié à leur rôle de programmateur, c'est-à-dire qu'il y a déjà une forme de prescription culturelle, il n'y a pas besoin de choisir dans une offre extrêmement diverse qui parfois donne un peu le tournis?
Le succès des chaînes de télé pendant la période de confinement, il s'est construit sur deux pieds. Un pied information, très clairement, avec des chaînes d'infos qui ont vu leur score absolument exploser, je crois jusqu'à plus de 7% quand on mettait bout à bout BFM, CNews et LCI, et France Info. Et puis sur du divertissement, parce que dans des périodes de stress, on a aussi besoin de se divertir, de se détendre. Le vrai talent des programmateurs dans cette période, mais qu'ils soient du public ou du privé, ça a été effectivement de trouver les bons programmes de divertissement, ceux qui étaient rassembleurs, fédérateurs, puisque toute la famille était rassemblée, et puis ceux qui étaient quand même dans une mémoire collective et dans un sourire collectif, qui permettait à chacun de retrouver du plaisir à être devant l'écran, et effectivement de ne pas se poser la question d'aller fouiller dans les catalogues des plateformes aussi brillantes les productions qu'on y trouve soient-elles.
On a parlé des plateformes de vidéo par abonnement. Il faudrait maintenant parler de ce marché de la vidéo à la demande qui semble avoir été mis en lumière par le confinement. Je pense notamment à des plateformes françaises comme Universciné, Filmo TV ou encore Tank, qui étaient peu connues avant le confinement et qui semblent avoir gagné en visibilité, Philippe Bailly.
Il y a eu un travail formidable des médias, d'ailleurs des pouvoirs publics aussi, le ministère y a prêté la main, pour effectivement accompagner les Français dans leur choix de divertissement et de consommation culturelle pendant le confinement, en leur ouvrant les yeux, ou en tout cas en leur ouvrant la voie, vers des services qu'ils connaissaient pas forcément et qu'ils ont appris à découvrir. Et ça a profité, et tant mieux, très bien, à la diversité ça a élargi la consommation, ça a créé plus de diversité, et de fait, ça a mis dans la lumière des plateformes comme Tank dans le documentaire, Universciné, Filmo TV dans le cinéma, etc., avec une question simplement pour elle demain, c'est quand les gens auront moins de temps, quand ils auront repris le travail, quand ils auront retrouvé un rythme d'occupation qui laisse moins de temps à passer devant la télévision, est-ce qu'ils sacrifieront ces abonnements ou est-ce qu'ils y auront pris suffisamment goût pour maintenir leurs abonnements?
Il y a un autre grand gagnant du confinement qui est l'une des industries culturelles les plus florissantes aujourd'hui, c'est le jeu vidéo qui lui aussi a élargi son public.
Le jeu vidéo se porte bien depuis longtemps avec un public qui s'est d'ailleurs élargi On est loin simplement de la caricature du jeune geek devant sa console et une pizza froide, et passant des nuits entières. Ce qu'on appelle le casual gaming, celui notamment qu'on joue sur nos smartphones, a permis de faire rentrer dans le jeu vidéo tout âge, tout sexe, enfin tout un peu l'ensemble de la population, d'en faire quelque chose d'assez partagé. Là encore, la disponibilité fait que une fois qu'on a regardé X programme, qu'on a lu l'actualité du jour et des papiers d'analyse autour de ça, le jeu vidéo a été un accompagnant utile. Et alors, à contrario, le seul, enfin celui des genres, enfin ou des services numériques qui a plutôt pâti de cette période, ce sont les services de musique en ligne, Deezer, Spotify et autres, simplement parce qu'ils se consomment en général beaucoup dans les transports, et qu'à partir du moment où il n'y a plus de transport, la musique, on la réécoute sur la chaîne de la maison, mais moins chacun dans son abonnement audiovisuel individuel à Spotify ou Deezer.
De nombreuses institutions culturelles, comme l'Opéra de Paris, se sont également mises au streaming. Et ça, c'est une mise en ligne qui suppose d'établir une stratégie de diffusion pour créer la rareté, peut-être, Philippe Bailly?
Je pense que dans la période récente, le souci était moins de créer la rareté parce que de facto, elle s'imposait à tous. Pas de possibilité d'aller au cinéma, au concert ou autre, que de maintenir une présence et un lien avec une nécessité de réinventer la manière d'entretenir ce lien. On ne peut pas simplement poster des photos ou des petits textes. À un moment, il fallait faire plus. Les danseurs de l'opéra et du ballet de l'opéra ont fait notamment une vidéo formidable dans laquelle ils saluent tous chacun chez soi, mais en dansant le public. Voilà. C'est simplement. Enfin, plus que de plus qu'une difficulté à trouver des plateformes de diffusion, c'était aussi une nécessité de trouver le juste ton, la bonne manière de se saisir de ces canaux de diffusion. Là-dessus, je pense que les équipes de Facebook, notamment, ont fait un assez bon travail d'accompagnement et de conseil à ces institutions culturelles. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup d'institutions qui ont trouvé le chemin par elles-mêmes et qui se sont recréées en quelque sorte sur les réseaux digitaux.
Maintenir le lien, nous dites-vous, c'est aussi ce qu'ont essayé de faire les musées qui ont tenté d'exister sur le web de manière plus ou moins fructueuse. Je pense en particulier à la plateforme commune qui réunit les musées, Paris Musée Collection, qui a connu des pics de fréquentation.
La bonne idée, c'était certainement ces dernières semaines de construire effectivement des pôles de musées en l'occurrence, et surtout sur des genres ou sur des répertoires un peu exigeants, parce que ça permettait de mieux émerger et d'aller davantage vers des enfin de permettre davantage des rencontres de hasard. C'était les rencontres de hasard, c'est l'internaute qui tombe sur cette page, qui n'aurait pas fait la démarche d'y aller, mais parce qu'il y est arrivé fortuitement, il y reste et il y prend goût. C'est un des vrais enjeux de la culture, enfin en général et dans cette période en particulier, qui est de ne pas simplement proposer, mais c'est de créer l'occasion de la rencontre, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément l'habitude, la formation, le background pour d'office et d'eux-mêmes aller vers des sites de musées, des sites de galeries, des sites de théâtre un petit peu exigeants, etc. Donc la capacité pour tout cela de trouver, enfin de se mettre finalement dans le chemin de l'internaute, c'est aussi une variable vraiment enfin déterminante de succès.
On a parlé de musique et de cinéma. Un mot sur la littérature. On sait que le livre numérique et la liseuse n'ont pas tellement pris en France. Est-ce que le confinement a changé la donne, Philippe Bailly?
Alors, s'agissant du livre, on est plutôt malheureusement aujourd'hui sur des chiffres alarmants de supérieurs à 10% de baisse des ventes et parce que, comme vous l'avez dit, le mode dominant de lecture en France, ça reste le livre papier plutôt que la liseuse. Et donc,
l'e-book, c'est 6% de part de marché en littérature générale.
Absolument. Il n'y a pas eu de révolution, ou en tout cas, ces 10 semaines n'ont pas suffi à faire une révolution des usages. Si on parle un peu plus largement de l'écrit, il y a eu une très forte consommation de la presse et des sites d'information sur Internet, avec un réflexe un peu de retour vers les valeurs refuge. Les marques, entre guillemets, les sites en tout cas qui ont le plus progressé, ce sont les grands noms de la presse quotidienne ou de la presse magazine, c'est Le Figaro, c'est Ouest France, c'est Le Monde, etc. Plus que des pure players qu'on fréquente parfois, mais plus dans une optique de semi-divertissement ou de total divertissement. Là, au moment où il s'agit de s'informer sur des choses, des sujets sérieux, entre guillemets, il y a eu un retour vers ceux qui portent cette légitimité, et ça, ce sont les grandes rédactions.
Et on a constaté le même phénomène aux États-Unis, je crois, la consommation, enfin, la fréquentation du site du New York Times a littéralement explosé.
Ah, la fréquentation du site de New York Times, c'est deux choses, le Covid certainement, mais aussi l'opposant privilégié du New York Times, ou en tout cas celui qui les désigne tous les jours comme son opposant et qui suffit à entretenir le buzz. Je pense évidemment au président des États-Unis.
C'est sûr que ça aide. Je vous propose maintenant d'écouter le ministre de la Culture, Franck Riester, invité il y a quelques jours du Temps du Débat, l'émission d'Emmanuel Laurentin sur France Culture.
Je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir une vraie réflexion de fond, et nous la conduisons, sur l'accès à la culture par le numérique. Tout l'enjeu pour les mois qui viennent et les années qui viennent, c'est de bâtir justement des politiques qui permettent à la fois de maintenir cet accès très large, tout en ayant des modèles économiques qui permettent de financer la création et celles et ceux qui le permettent ou la permettent, cette création. Et donc, c'est un vrai chantier. Moi, je suis en train de réorganiser le ministère de la Culture pour lui donner des moyens importants sur la partie outils pour les agents, système d'information et accompagnement des acteurs de la culture dans la digitalisation de leur politique culturelle pour qu'on soit ambitieux dans ce domaine-là et qu'en même temps, on travaille avec tous les acteurs de la création pour voir de quelle manière on bâtit des modèles pour qu'ils soient financés, mais en permettant quand même l'accès à la culture. Je pense que, par le numérique, je pense qu'on doit évidemment s'assurer que toute l'offre physique est confortée. Pour autant, les outils numériques permettent quand même d'accéder pour beaucoup de nos compatriotes à ces œuvres, commencer à prendre conscience de ce que ça peut être et progressivement les inciter ensuite à aller dans les offres physiques.
Voilà qui pose la question de la politique culturelle à mener et du rôle des pouvoirs publics face à cette concurrence entre culture numérique et culture physique. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Neveu ?
Alors, si je fais un pas de côté sur la culture physique, je commencerai par dire que vous avez fait un panorama très judicieux d'un ensemble de pratiques culturelles qui se sont développées pendant le confinement, mais il y a aussi ce que Paul Willis appelait les cultures profanes et aussi les enjeux économiques. Je veux dire par là que dans les pratiques culturelles qui ont flamboyé pendant ces semaines, mais il y a eu le jardinage, il y a eu le bricolage, il y a même eu anecdotiquement un retour de la culture qui était de la couture, qui était en voie de disparition. Donc ça, c'est d'autres dimensions culturelle. J'ai envie de relier ce que dit le ministre de la Culture à un point. Ben, si on veut essayer de faciliter l'accès à la culture, d'utiliser éventuellement des technologies numériques pour ça, il y a la question de France 4, dont une députée ex-La République En Marche, Frédéric Dumas, racontait comment la liquidation avait été décidée sur un bureau dans un coin de l'Élysée. Je pense que cette chaîne, elle a montré pendant le confinement l'intérêt qu'elle pouvait avoir, pas simplement sur des logiques de soutien scolaire, mais d'accès à la culture. Et je pense aussi que c'est un réseau qui, par exemple, aidait considérablement à la création du côté des productions d'animation françaises qui sont un domaine qui était très dynamique chez nous et qui a aussi des enjeux économiques. Et donc peut-être que d'assurer le maintien de cette chaîne, bah, ça pourrait être une action concrète côté du ministère de la Culture.
Philippe Bailly.
Le débat sur France 4 et sur la disparition de France 4, il est à nouveau sur la table, et même sans préjuger absolument de son issue. Enfin, il semble que France 4 ait sauvé sa peau grâce au confinement, de manière un peu paradoxale, et grâce aussi effectivement aux efforts d'adaptation de la programmation qu'a fait France Télévisions. Déjà aujourd'hui, on a un certain nombre de responsables politiques de l'opposition, mais aussi de la majorité, et pas des moindres dans la majorité, le ministre lui-même qui a clairement expliqué que le débat était rouvert. Mon pronostic, c'est aujourd'hui, sachant que France 4 aurait dû s'arrêter le 8 août ou le 9 août, et que le 9 août, on sera loin d'être sorti totalement du confinement, je pense qu'on retrouvera France 4 à la rentrée et sans doute longtemps après.
Qu'est-ce que le confinement a fait aux pratiques culturelles, selon vous, Éric Neveu? Ce que vous nous expliquez, c'est que ces deux mois ont permis peut-être de renforcer la désacralisation de la culture?
Je reviens sur la consommation de séries télé, qui a probablement été quelque chose de très significatif pour meubler ce temps contraint. Alors, d'une part, mais ça c'est pas très original, au fond ça confirme une espèce de processus aussi de légitimation de la télé, qui n'est plus loisir honteux, mais quelque chose qu'on peut regarder, qui a conquis ces quartiers de noblesse culturelle. Et en particulier, je pense que les séries ont joué un rôle décisif là-dessus, c'est-à-dire des productions qui sont conçues pour le petit écran, mais qui ont une ou des qualités aussi bien formelles que de contenu. Et puis, il me semble que l'engouement pour les séries, alors des séries, naturellement, il y en a toutes sortes, mais ça nous dit aussi des choses sur un rapport à la culture, je dirais, qui est à la fois plus décontracté, une prise de distance sur ce que la sociologie a des fois appelé la bonne volonté culturelle, un espèce de rapport dévot, respectueux, presque ascétique, on va en baver, mais on va devenir des gens cultivés. Et je pense qu'il y a un désir de choses beaucoup plus accessibles, beaucoup plus confortables, où il n'y a pas d'espèce de ticket d'entrée culturel pour en profiter. Et qu'en même temps, c'est pas forcément moins. C'est-à-dire, je pense, là aussi, il faudrait dire quelle série, et qu'au fond, beaucoup de séries ont des formes plurielles de réalisme en termes de documentation, de nous faire pénétrer dans des pays ou des mondes sociaux qui ne sont pas familiers, de démonter des mécanismes de causalité. Et je crois qu'en écoutant, en regardant The Wire, par exemple, ou West Wing, je pense qu'on comprend énormément de choses sur des problèmes sociaux ou sur le fonctionnement du pouvoir politique aux États-Unis, du pouvoir politique en général, et du coup des choses qui ont l'air très faciles, très distrayantes, je pense, ont aussi des contenus qui font qu'on apprend et qu'on comprend peut-être mieux le monde en regardant ça. Je fais un rapprochement. Dans une enquête qu'on avait faite il y a une dizaine d'années avec une collègue sur les lecteurs de romans policiers, on avait un gros lecteur qui avait eu cette réponse étonnante à la question « Est-ce que vous lisez le journal ?» Il nous avait dit « Non, pourquoi je relirais le journal ?» Puisque je lis des polars. Mais de certaine manière, par rapport aux chiffres qu'on citait tout de suite sur les chaînes d'information continue, il vaut peut-être mieux regarder des séries que regarder BFM si on veut comprendre le monde.
On va revenir sur cette question de l'élargissement de l'accès à la culture, et on va aussi se demander si, face à l'évolution des pratiques culturelles, il est possible d'inventer de nouveaux modèles économiques. On en parle dans un instant.
Should I be honest? You used to come over and roll up.
Roll up. Roll up.
Nowadays, honestly, you don't show up.
Show up. Show up.
You're only consistent, being inconsistent. Grow up.
Grow up.
Grow up.
Grow up.
Grow up.
Grow up.
Come
little bit and do something really special on my shoulder. You used to tap me, and I'll never forget the days that you had me. I really love you, I really miss you. Ain't you coming over? You know I miss you. Man, coming over, chilling on my shoulder, come over, cause you know I got my shoulders. Come on, remember when we
Smoke, Netflix, Chill du groupe américain Tank and the Bangas sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Philippe Bailly et du sociologue Éric Neveu pour parler des nouvelles pratiques culturelles. Depuis le début de l'épidémie, le secteur de la culture connaît une chute inédite de ses recettes, liée bien sûr à la fermeture des lieux culturels, mais aussi à la baisse de ses revenus publicitaires. Qui est aujourd'hui le plus affecté par la fuite des annonceurs, Philippe Bailly ?
Alors, les chiffres du premier trimestre ont été publiés ces tout derniers jours. Donc, premier trimestre, ça veut dire simplement 15 jours de confinement. Et déjà, on voyait les recettes publicitaires du cinéma baisser de presque 20%. Celle de la télévision de 10%, celle de la presse de 12%. Enfin, l'ensemble, malheureusement, des médias a payé un lourd tribut au Covid. Et le pire est encore à venir, puisque les prévisions qui ont été faites pour l'ensemble de l'année, c'est une chute de 23%, ça veut dire de l'ordre de 3 ou 4 milliards d'euros en moins de recettes publicitaires pour l'ensemble des grands médias. Et encore, cette prévision était-elle subordonnée au fait que l'activité reprenne son cours à peu près normal au 1er septembre, ce qui est pas du tout acquis.
Donc si on vous comprend bien, jamais les Français n'ont autant regardé la télévision ou surfé sur Internet, mais cette hausse de l'audience, de la fréquentation ne s'est pas traduite en bénéfices économiques.
C'est le paradoxe de cette période, c'est un paradoxe qui est doublement compréhensible, à la fois enfin, le fait que les marques aient moins investi en publicité, il y avait une raison économique, les magasins étant fermés, de toute façon ça ne servait à rien de pousser la vente de tel ou tel produit que les gens n'auraient pas pu aller acheter, et puis il y avait aussi une raison, je pense, sociale, d'acceptation sociale. On n'aurait pas accepté, à mon avis, en tout cas les marques qui s'y seraient tentées l'auraient fait de manière très contre-productive, d'avoir la réclame, entre guillemets, comme d'habitude, à un moment où le reste de la journée était peuplé d'histoires de maladies, d'organisation de télétravail, etc. Donc voilà, la difficulté maintenant, c'est d'organiser le rebond. Et c'est compliqué d'organiser le rebond tant qu'on n'a pas une visibilité plus forte sur le rythme du déconfinement post 2 juin, puisque ça a été la première étape qu'a marqué le Premier ministre.
Et la question, c'est est-ce que ce rebond peut se faire largement sur Internet ? On se demande notamment comment monétiser les nouveaux services offerts durant le confinement, comme les spectacles mis en ligne. Alors l'une des pistes, c'est la collecte de données des utilisateurs, mais ça c'est une pratique qui se heurte à un certain nombre de limites, Philippe Bailly.
Oui, qui se heurte à un certain nombre de limites, et heureusement, des limites de respect de la vie privée, et qui trouve une autre limite plus pragmatique ou prosaïque, c'est simplement avoir des données à vendre, c'est très bien, encore faut-il avoir quelqu'un qui est intéressé de les acheter, et la data a beau être devenue le Graal de ces dernières années, aujourd'hui, dans une conjoncture économique très déprimée, il n'est pas sûr qu'il y ait des tas d'entreprises qui se ruent pour acheter ces données. La question, ça va être plus celle, au moins pour 2020. 2021, on peut supposer que la pub, quand même, petit à petit, regagnera des niveaux plus habituels. C'est ce que vous disiez, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer une audience qui a été réalisée souvent gratuitement pendant la période de confinement en acte d'achat ou en acte d'abonnement, de souscription à des spectacles en ligne, d'abonnement à des journaux, des versions numériques des journaux, etc. Pour l'instant, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, le mieux en tout cas, c'est sans doute les plateformes de vidéos à la demande plutôt américaines, avec mal, enfin un corollaire malheureusement, c'est que l'abonnement qui est payé aujourd'hui à Netflix, à Disney ou à Amazon, il ne se traduit pas forcément en retour vers la création française et vers les producteurs de cinéma ou de séries ou de documentaires français.
Et rien n'assure non plus Netflix et autres plateformes de vidéos par abonnement que les nouveaux venus vont rester. Il y a un fort enjeu de fidélisation aujourd'hui.
Absolument, et d'autant plus fort en termes, enfin cet enjeu de fidélisation, que beaucoup de ces services ou des autres opérateurs comme Orange SFR par exemple ont offert à leurs abonnés des périodes de gratuité, d'accès gratuit. Qui les ont bien occupés, qui ont contribué à bien les occuper pendant la période de confinement, mais dont il reste effectivement à maintenant à les concrétiser, à les transformer en abonnement.
Sachant que d'une façon générale, la capacité d'abonnement des usagers est assez réduite, on le voit notamment dans la presse.
Presse, j'ai pas de chiffres en tête. Nous, dans le domaine de la vidéo, effectivement, 15 euros, c'est en France en tout cas. 15 euros en plus de ce que vous payez pour votre abonnement à Internet et les chaînes de télé qui y sont associées, ça paraît aujourd'hui comme, je dirais, plutôt un plafond qu'un plancher.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Neveu, ces réflexions sur la difficulté à traduire sur le plan économique des services qui ont été offerts gratuitement, notamment par les grandes institutions culturelles en France ?
C'est un défi auquel vont se heurter probablement les diffuseurs de programmes, mais qui était déjà très visible pour la presse. C'est-à-dire, au fond, il y a une partie importante, et là, il y a une variable générationnelle qui doit jouer chez les jeunes, qui considèrent qu'il n'est pas logique d'avoir à payer pour un certain nombre de biens culturels. Moi, c'est très évident pour la presse quand je fais des sondages devant des amphis et que je demande qui paye pour l'accès à des contenus d'information, c'est très peu. Et je pense qu'il y a ce réflexe consistant à considérer que l'accès aux biens culturels, c'est la gratuité qui devrait être la règle, qui va être une très grosse contrainte. Alors effectivement, beaucoup de produits de qualité et puis de stratégies imaginatives pour contourner ça.
Est-ce que face à ces difficultés, face aux difficultés que traversent aujourd'hui les acteurs culturels, il faut s'attendre à une plus grande concentration de ces acteurs et en particulier dans la presse, Philippe Bailly ?
Les périodes de crise sont toujours des accélérateurs de concentration. On l'a vu la semaine, enfin c'est dans la période récente. Dans une opération qui est pas aboutie aujourd'hui, en tout cas qui n'a pas abouti une concentration, mais sur le groupe Lagardère, avec l'entrée au capital du groupe Bolloré et de Marc Ladré de la Charrière, il se trouve que d'un côté Lagardère, vous avez le groupe Hachette, donc un des leaders mondiaux de l'édition, et du côté de Vivendi, vous avez Editis, qui est aussi un des leaders mondiaux de l'édition. La tentation de se dire qu'en les rapprochant, on fera un acteur plus solide, plus costaud pour perdurer dans la période à venir, elle est certainement très très tentante. Mais au-delà, on encore une fois, les périodes de crise sont toujours des périodes de concentration. Là, le risque peut-être, c'est que cette loi-là ou cette règle-là joue pleinement dans certains États très libéraux du type les États-Unis et que on la laisse beaucoup moins jouer en France et en Europe plus globalement au niveau de l'autorité de la concurrence ou au niveau de la Commission européenne, avec donc au final un risque de fragilisation d'acteurs européens qui sont déjà pas aujourd'hui les maillons forts, disons, du paysage.
Et en effet, on a déjà vu du côté des États-Unis des phénomènes de concentration importants, des salles de spectacle et de concerts. Ça, c'est un phénomène qui est déjà un petit peu ancien, Philippe Bailly.
Oui, absolument, et avec y compris de nouveaux acteurs qui s'invitent, puisque on dit qu'Amazon pourrait racheter les cinémas AMC et donc devenir un acteur totalement intégré de la filière audiovisuelle, enfin et de la filière culturelle, de la production de contenu jusqu'à leur exposition en salle. Aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent et ceux qui peuvent investir, ce sont les acteurs du numérique, et ceux d'autant plus qui sont aussi ceux qui ont le moins souffert de cette période compliquée. Encore une fois, la question c'est est-ce qu'il y aura une maturité des acteurs européens, d'une part, et des autorités européennes pour laisser organiser un regroupement des forces en Europe qui permette à l'Europe de maintenir ses positions. Là, parmi les récents mouvements, il y a aussi celui de Mediaset, donc groupe italien de Monsieur Berlusconi, qui est monté à 25% d'un groupe allemand d'audiovisuel qui s'appelle ProSieben, qui est le deuxième groupe allemand. Peut-être que c'est une des opérations qui participera à ce regroupement des forces.
Et puis un autre regroupement des forces qui va enfin voir le jour, c'est cette plateforme commune de TF1, France Télévisions et M6, la plateforme Salto, qui devrait être lancée en septembre. Elle proposera une offre de films et de séries françaises. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, selon vous, Philippe Bailly ?
Il faut en attendre d'abord pour les producteurs et les distributeurs français, sans doute une plus d'écoute, enfin plus d'écoute ou plus de capacité en tout cas à donner à voir leur production. La place des créations françaises sur Netflix et Amazon, elle reste aujourd'hui extrêmement minoritaire. On imagine facilement que ça sera pas la même chose sur Salto.
Donc davantage une défense de la création qu'une tentative de concurrencer Netflix ou Disney.
Bah l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que défendre ou en tout cas offrir davantage de place à des créations françaises, c'est aussi potentiellement permettre de construire un service qui est une couleur un peu différente de celui de celle de Netflix ou d'Amazon, une offre différente et qui du coup puisse aussi aller vers un public un peu alternatif par rapport à celui de Netflix et d'Amazon. C'est jouer la complémentarité plutôt que la concurrence frontale.
Et en parallèle, il y avait aussi une idée qui avait surgi dans le débat, celle de diffuser plus de films sur les chaînes de télévision classiques, alors des films de patrimoine, mais pas seulement. Ça, ce serait une initiative intéressante, Philippe Bailly ?
Cette évolution, elle est en train de se poursuivre. Elle devrait prendre la forme d'un décret d'ici à l'été ou au début de l'automne. L'augmentation de la place des films sur les chaînes gratuites et notamment la possibilité aussi de les voir en télévision de rattrapage. Oui, c'est une manière de redonner au cinéma plus de visibilité. Le paradoxe étant qu'il y a quelques années ou décennies de ça, les gens du cinéma ont demandé à ce qu'on mette des seuils maximum parce qu'ils avaient peur que s'il y avait trop de films à la télé, les gens aillent moins les voir en salle. Là aujourd'hui, ils seraient presque demandeurs de la mesure inverse et d'une obligation de diffusion de cinéma à la télé. Donc un, ça maintient le contact entre le téléspectateur et le cinéma. Et ça évite de tomber dans une consommation uniquement centrée sur les séries, sachant quand même, c'est un des aspects d'une étude qu'on a faite, on l'a dit déjà mille fois, un média ne chasse pas ceux qui l'ont précédé, mais il prend une place un peu différente. Et de fait, quand on regarde, nous, les abonnés à la SVOD, ils sont plus cinéphiles, enfin en tout cas, ils vont plus souvent au cinéma que la moyenne de la population. Donc les choses ne sont pas... Enfin, il n'y a pas forcément toujours du blanc et du noir, quoi.
Cette semaine, Xavier Martinez entretient avec des personnalités du monde de la culture. Aujourd'hui, c'est Nathanaël Karmitz, le directeur général du groupe MK2, premier exploitant de salles de cinéma indépendant, qui nous raconte comment il fait face à la crise. Les salles obscures sont fermées depuis le 16 mars et les exploitants devraient connaître au début du mois de juin la date de leur réouverture. En attendant, MK2 ne reste pas les bras croisés. La société a signé le 20 avril dernier un partenariat avec Netflix pour la diffusion d'une cinquantaine de films de son catalogue. Écoutez Nathanaël Karmitz au micro de Xavier Martinet.
L'autre activité d'MK2, après les salles, c'est d'être détenteur et de représenter un grand catalogue de droits de près de 800 films qui représentent une part de l'histoire mondiale du cinéma. Donc, quand on a commencé à discuter de cet accord, évidemment, l'idée de présenter les films de Truffaut ou de Jacques Demy ou de Chaplin sur Netflix, dont les spectateurs ne sont pas forcément la première cible de cette typologie de cinéma, c'est évidemment vécu comme une grande opportunité. Ce qui n'empêche pas que l'événement à l'intérieur de tout ça, c'est que Netflix, jusqu'à il y a peu, se refusait à passer du cinéma de patrimoine, pas du cinéma d'auteur, mais du cinéma de patrimoine, considérant que c'était compliqué, que ça intéressait pas ses spectateurs. Force est de constater qu'ils ont décidé d'écouter les spectateurs français, d'essayer. Manifestement, ça marche, puisque les films ont l'air de remonter beaucoup dans les succès des algorithmes, qu'il y a beaucoup de retours et de réactions sur les réseaux sociaux, et que du coup, ça permet cette découverte et cet élargissement du public. Et encore une fois, cet accord n'empêche pas les films d'être ailleurs, d'être diffusés sur d'autres plateformes également. Donc, en tout cas, il n'y a aucune raison de les mettre au banc de la société. Les évolutions qu'ils souhaitent apporter sont bonnes et on s'en réjouit. J'espère qu'ils évolueront aussi sur leur position sur la chronologie des médias et sur leur rapport avec la salle. Et encore une fois, je préfère qu'ils changent, qu'ils s'intéressent à la culture, qu'ils s'intéressent à la culture française et qu'ils aient envie de la diffuser, plutôt qu'ils l'ignorent et ne soient que dans la diffusion de leurs produits ou de la culture américaine. Donc, on peut voir ça plutôt comme une bonne nouvelle.
Et quand on voit aujourd'hui que d'une part les grands festivals se mettent en ligne et que d'autre part aux États-Unis il y a un conflit entre le grand exploitant de salles AMC et puis Universal hein, qui avait la diffusion de Troll 2 en VOD, est-ce que ça veut dire que les positions des producteurs et exploitants sont en train de bouger, de changer ?
Alors non, je pense pas. Il y a d'un côté les festivals. Les grands festivals ne se sont pas associés avec des plateformes. Il y a un accord pour essayer de faire vivre ces festivals en ligne sur un regroupement d'une cinquantaine de grands festivals dans le monde pour monter des événements et notamment des masterclass ou des dialogues avec des auteurs de cinéma, donc pour faire vivre le cinéma avec YouTube, sur YouTube. Mais encore une fois, c'est YouTube comme moyen de diffusion. De l'autre côté, et là c'est un autre problème, c'est Universal qui décide, pas spécialement sur Troll 2, puisque sur Troll 2, il y avait une question de contexte, le film devait sortir au début du confinement, ils ont décidé de le mettre sur les plateformes de manière exceptionnelle, ça peut se comprendre, d'autres l'ont fait également, ça pourquoi pas. Ce qui a été problématique, c'est que Universal annonçait vouloir continuer après les périodes de confinement. Et là, on est dans quelque chose de différent, puisque là, on est quasiment dans une attitude de profiteur de guerre, avec des gens qui profitent d'une situation où leurs partenaires commerciaux, que sont les salles de cinéma, ne peuvent pas répondre, sont fermés partout dans le monde, et ils essaient de profiter de cette situation pour imposer un nouveau calendrier. Ça, c'est effectivement scandaleux. Ils sont absolument pas en conflit qu'avec AMC, ils sont en conflit avec l'ensemble des exploitants du monde. Et je pense qu'ils ont commencé à rétropédaler assez sérieusement parce que malgré tout, et quoi qu'on en pense, la salle de cinéma reste un marché qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars dans le monde et est primordial pour les studios et primordial pour la vie des films. Les films qui commencent par la salle ont une durée de vie plus longue, plus rentable, avec plus de spectateurs, beaucoup plus que sur les plateformes de streaming.
Et alors, pour terminer sur ce modèle salle, s'il y en a un, vous-même, avec MK2, vous avez mis l'accent sur la séduction des jeunes publics avec un tarif réduit à la fin de l'année dernière et puis aussi une multiplication des types d'expériences cinématographiques. Il y avait autour de Bibliothèque à Paris le MK2 VR, un MK2 Store. Le MK2 VR lui a fermé assez vite. Qu'est-ce que ça apporte finalement ?
Alors, encore une fois, plusieurs sujets dans la question. Il y a d'un côté, notre métier depuis 1974, c'est d'être créateur du lieu de vie et d'innover dans l'expérience de la sortie, dans l'expérience du cinéma. Après, il y a d'autres initiatives qu'on essaie de mener et où on essaie, voilà, de réfléchir à comment amener le cinéma aussi chez les gens, comment exciter la curiosité des gens, d'où par exemple cette initiative MK2 Curiosity. Pendant le confinement, on diffuse 5 films gratuitement qui sont des pépites de l'histoire du cinéma, parfois un peu oubliées. Alors, le MK2 VR, on continue beaucoup à être impliqué dans les technologies immersives. On a notamment ouvert un aquarium digital, par exemple à Nice, chez Cap 3000. L'espace de VR qu'on avait au MK2 a jamais eu vocation à être un point de départ de quelque chose qui allait se développer. C'était, on va dire, un grand showroom qui nous a permis de récolter beaucoup d'expérience sur l'activité grand public de l'utilisation de la réalité virtuelle. Il a fermé en fin d'année pour une autre activité qui ouvrira d'ici quelques semaines avec des technologies immersives aussi. Donc, ça n'est pas du tout la fin de quelque chose. Et à la limite, c'est plutôt l'inverse. C'est que soit d'une mauvaise idée ou d'un manque de momentum, c'est que justement la réalité virtuelle ou l'ensemble des technologies immersives avec les sujets du confinement et donc un monde de demain où on peut imaginer qu'on va peut-être moins se déplacer, moins bouger dans le monde, ces technologies, c'est justement une porte ouverte sur le monde. Donc, on pense au contraire qu'il y a un grand avenir dans ces technologies, dans leur usage, et que c'est un usage qui risque de correspondre à ce monde d'après auquel tout le monde essaie de réfléchir en ce moment.
Nathanaël Karmitz, le directeur général du groupe MK2, au micro de Xavier Martinet. Une réaction, Philippe Bailly, aux propos que l'on vient d'entendre ?
J'ai entendu des termes comme profiteur de guerre qui me semblent inutilement polémiques. Et après, il y a deux choses qu'il faut peut-être mettre, enfin distinguer. L'une, c'est la situation exceptionnelle dans laquelle le confinement a placé les professionnels du cinéma. Avoir des films prêts, programmés. On en voit encore partout sur les colonnes Maurice des affiches des films qui devaient sortir au mois de mars et qui ne sont jamais sortis. Cela, d'une certaine manière, leur permettre l'accès rapide au monde digital, que ce soit en vidéo à la demande ou en SVOD, c'était une manière de sauver les meubles et pardon de la trivialité du terme. Il y a un deuxième aspect qui est celui donc de la chronologie des médias à laquelle le monde du cinéma français malheureusement s'attache un peu comme à une religion, ou plus exactement.
Il faut préciser que c'est 4 mois pour la vidéo à la demande entre la sortie en cinéma et la sortie sur la plateforme, mais que c'est 3 ans pour les plateformes par abonnement comme Netflix.
Absolument, et vous auriez pu rajouter, scander votre rappel avec les fenêtres qui se succèdent dans l'intervalle, qui sont en France d'une rigidité qu'on ne connaît nulle part ailleurs. On a fait une petite recherche sur les principaux pays européens, donc nos voisins allemands, italiens, espagnols, anglais. Aucun d'entre eux n'a eu besoin de prendre un texte de loi, ce qui a dû être le cas en France, pour que les films qui ne pouvaient pas sortir ce printemps à cause du confinement trouvent une autre vie. Parce que chez les uns et les autres, ce sont les usages professionnels, les accords professionnels qui priment sur la rigidité, le côté absolutiste d'une loi ou d'un décret. Et que le conserve le principe, enfin, d'une chronologie des médias qui a deux justifications. D'un côté, du côté du téléspectateur, finalement, moins vous payez pour un film, plus vous devez attendre pour le voir. Si vous allez en salle, il vous en coûtera 8-10 euros. Si vous attendez 24 mois, vous finirez par le voir sur une chaîne gratuite. Mais encore une fois, vous n'avez pas eu le même investissement. Et de la même manière, ça permet que les services de SVOD, de VOD, de SVOD, les chaînes payantes de première fenêtre comme Canal, les chaînes payantes de deuxième fenêtre comme Ciné+, les chaînes gratuites, etc., que chacun contribue en quelque sorte au financement du cinéma à hauteur de ce que le cinéma lui apporte en termes de fraîcheur de film, d'aspect d'exclusivité. Ce principe-là, il est vertueux. La limite, en revanche, au principe, c'est quand on veut en faire une règle gravée, enfin une règle d'airain gravée dans les pierres et qui ne souffre aucune dérogation.
Alors, le numérique permet-il une démocratisation de la culture? Quels sont les obstacles à la consommation culturelle? Écoutons le sociologue Olivier Donna, interrogé le 30 septembre dernier par l'Observatoire des inégalités.
Il y a effectivement des disparités, on va dire, pour pas utiliser le terme inégalité, mais des disparités dans la fréquentation des équipements culturels, et qu'elles renvoient essentiellement à des différences de diplômes, beaucoup plus que des différences de revenus. C'est-à-dire, autrement dit, la première barrière d'accès à la culture, c'est pas une barrière économique, mais c'est une barrière plutôt socio-culturelle, c'est-à-dire le fait qu'on a été habitué, souvent depuis sa plus jeune enfance, à avoir des livres chez soi, par exemple. Et donc, c'est plutôt ça qui joue que le niveau de revenu. Cependant, le niveau de revenu joue, mais beaucoup plus en termes de frein à une pratique plus intensive. C'est-à-dire, si on veut, en une phrase, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas dans les musées et les théâtres, c'est essentiellement pour des raisons socioculturelles, mais parmi les gens qui y vont, il y a des gens qui souhaiteraient y aller plus et qui ne le font pas pour des raisons économiques.
Le confinement a-t-il permis un accès plus large de la culture à des publics qui en sont habituellement éloignés, Philippe Bailly ?
Le confinement, il a été, en tout cas, il a donné du temps à chacun, quel que soit son statut professionnel, son origine sociale ou son sexe, d'accéder aux écrans et à travers les écrans, d'accéder à toutes sortes de créations. Ceux qui ont voulu aller voir l'Opéra de Paris sur Facebook telle ou galerie ou tel musée ont pu le faire. Celles qui ont préféré la 7e compagnie ont pu le faire également. C'était ouvert à tous. La difficulté,
du monde numérique, c'est d'un côté, vous avez enfin la télévision qui traditionnellement est un média de l'offre, dans lequel vous avez une grille que vous suiviez au fil de la journée et dans lequel à un moment vous pouvez vous trouver face à un programme que vous n'aviez pas spontanément choisi et donc ça ménage encore une fois des rencontres. Il y a bien longtemps, Jacques Rigaud racontait comment il avait vu des bergers qui regardaient des pièces de théâtre de l'Académie française, de la Comédie française en haut au pâturage. Donc ça, c'était dans les années 60 ou 70 quand il y avait une seule chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que la télévision, à travers encore une fois ce principe de grille de programme qui égrène le temps, permet comme ça des rencontres. Et le service public a particulièrement bien joué son rôle dans cette période en mixant ce que disait tout à l'heure Eric Neveu, du contenu divertissement, du contenu éducatif, de l'info et puis des modes d'entrée vers la culture. Du côté des plateformes, encore une fois, un site web, vous n'y accéderez que si vous en avez tapé l'adresse. Donc là.
Oui, et puis il y a le rôle qui est joué par les algorithmes, le rôle de prescripteur culturel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le consommateur se retrouve cantonné à ses propres goûts au détriment de la découverte?
Alors ça, c'est le risque qui est régulièrement pointé à propos des plateformes et d'autant plus régulièrement pointé qu'effectivement, c'est un peu le poteau noir. On ne sait pas exactement comment sont faits ces algorithmes, ce qui prête à la fois à toutes les inquiétudes et parfois aussi sans doute un peu à une part de fantasme. Ce que je veux dire, c'est simplement, on parlait tout à l'heure, Nathel Karmitz parlait des 50 festivals qui se sont regroupés pour avoir une existence commune sur YouTube. Au début du confinement, Facebook avait monté en France une opération qui était Bienvenue chez vous avec des tas d'artistes et de gens de culture qui ont animé une même page. Voilà, à un moment, c'est de retrouver en tout cas un point de recréer un point d'ancrage, un point d'entrée qui permet à ceux qui n'ont pas forcément les codes plus facilement d'accéder à ce monde de la culture et encore une fois sans que ça leur soit compliqué, sans qu'ils aient besoin de savoir quel est le nom de la galerie qui expose tel peintre dont un jour ils avaient vu une toile qui leur avait plu ou etc.
Il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire, mais on a eu beaucoup de difficultés à joindre Eric Neveu qui nous aurait éclairé aussi sur cette question de l'élargissement de l'accès à la culture à d'autres publics. On peut notamment se demander, puisque les voyages à l'étranger paraissent compromis pour un bon moment, si on ne va pas assister à l'avenir à une hausse de la fréquentation des lieux culturels par des visiteurs locaux, c'est-à-dire est-ce qu'on se dirige vers des circuits courts de la culture. Mais on parlera de toutes ces questions-là une prochaine fois. Je voudrais simplement vous demander, en guise de conclusion, Philippe Bailly, si l'avenir de la culture passera par un savant mélange d'offres numériques et d'offres physiques, qu'on a tendance à voir comme concurrentes, selon vous, les deux doivent être pensées de concert?
Je pense que résolument que les deux doivent être pensés de concert. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de choses, d'émotions, de sensations qu'on ne ressent quand les vivants in situ. Donc on parle souvent, c'est classique, du plaisir de la salle au cinéma, mais se trouver dans une grande cathédrale romane, par exemple, à avoir la sensation des siècles du sacré, la meilleure des vidéos ou des photos que vous verrez sur internet ne vous le restituera jamais. En revanche, ce que peuvent faire là où les deux sont vraiment complémentaires, c'est à la fois d'abord dans l'échange d'informations, dans l'entretien d'un dialogue entre les artistes et leur public, et un peu plus que ça, dans le fait aussi, et ça fait partie peut-être, ça reboucle sur la question que soulevait Olivier Donin, parfois, quand on est un peu timide ou qu'on n'a pas l'habitude d'acheter des livres, mais que sur des sites, on peut en avoir soit le premier chapitre en lecture libre ou lu par tel ou tel comédien ou etc. Enfin, c'est une manière aussi de désacraliser un peu et de créer un sas d'entrée vers potentiellement ensuite des pratiques un peu plus exigeantes.
« Carousel, le dernier titre de L'Éclair, dont le prochain album devrait sortir au mois de juin. Merci beaucoup Philippe Pailly et Éric Neveu de nous avoir accompagnés depuis chez vous tout au long de cette émission, malgré les problèmes techniques. Un grand merci également à toute l'équipe technique de France Culture et au CDM, sans qui rien ne serait possible. Demain, deuxième épisode de notre série consacrée au bien commun. On se demandera si la nature est un commun singulier avec la juriste Marie Toussaint et la chercheuse à l'AFD Stéphanie Léronas. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver la compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange.